30 secondes avant départ. Vous n'oublierez pas, bien sûr, de diffuser du sourire.
La chronique de Gilles Labouroir. Le sport entre histoire et société.
La chronique de Gilles s'intéresse à la Coupe du Monde de 1966 et à la victoire du pays organisateur, l'Angleterre. Alors que la plus ancienne fédération du monde, la Football Association, célébrait son centenaire, il semblait tout à fait approprié que la Coupe du Monde 1966 soit attribuée à l'Angleterre. La 8e édition de la Coupe du Monde arrivait dans le pays de naissance du football. La Football Association est née en Angleterre à partir des jeux de balle afin de tempérer la violence et surtout d'éduquer les fils de la bonne bourgeoisie. La naissance du football dans les collèges riches anglais est concomitante de la naissance du capitalisme et du libéralisme. La Football Association est née dans le collège d'Eton en 1863. C'est le jeu de balle sans les mains. Par contre, au collège de Rugby, est né le jeu de balle avec les mains qui donnera la Rugby Association. En 1880, c'est la naissance du professionnalisme. Le football se diffuse dans les milieux populaires. Manchester United est créé en 1878 par les cheminots de la Compagnie de Manchester, ville ouvrière du nord de l'Angleterre. Son stade mythique d'Old Trafford est construit en 1909. En 1890, la finale de la Coupe anglaise attire 90 000 personnes. En France, de l'entre-soi de la bourgeoisie, on passe à un jeu encadré par l'Église et les mouvements ouvriers et laïcs. Les professeurs anglais de lycée et les patronages jouent un rôle crucial dans la diffusion du football en France. Le football devient un sport universel. Il est propagé dans le cadre de l'Empire britannique. On peut y jouer partout sans des prédispositions particulières. Le football est accessible à tout le monde avec des règles simples à comprendre. Des valeurs d'initiative et de solidarité d'équipe y sont prônées. L'Angleterre n'a jamais dépassé le stade des quarts de finale de la compétition avant d'accueillir la phase finale en 1966. Pourtant, l'entraîneur de la sélection anglaise, Sir Alf Ramsey, annonce avant le début du tournoi que l'Angleterre va remporter le mondial. La France est présente à ce mondial 1966, mais est battue 2-0 par l'Angleterre en poule qualificative. Le samedi 30 juillet 1966, la finale oppose l'Angleterre, vainqueur du Portugal en demi-finale, à l'Allemagne, vainqueur de l'URSS dans l'autre demi-finale. C'était un événement mondial. 100 000 fans sont entassés dans le stade Wembley. À la fin du temps réglementaire, le score est de 2-2. En prolongation, après 11 minutes de jeu, l'attaquant anglais Jeff Hurst décrochait un tir puissant des 6 mètres. Le ballon frappait la barre transversale et semblait rebondir de l'autre côté de la ligne avant de revenir en jeu. L'arbitre a accordé le but. On sait maintenant que le but n'était pas valable. L'Angleterre l'emporte finalement 4-2 grâce à un dernier but de Hurst en toute fin de prolongation, celui-ci bien valable. Hurst aura marqué 3 buts au cours de cette finale. Ce match va donc faire l'histoire. Le capitaine Bobby Moore reçoit le trophée Jules Rimet de la reine d'Angleterre, Elisabeth II. Depuis ce samedi ensoleillé de Wembley, l'Angleterre n'a toujours pas pu rééditer ce succès de 1966. Bobby Moore est né le 12 avril 1941 à Barking, dans la banlieue est de Londres. Moore rejoint l'équipe de West Ham en 1956 à 15 ans et fait ses débuts professionnels en 1958 contre Manchester United. Bobby Moore devient à 22 ans et après seulement 12 sélections le plus jeune capitaine de l'histoire de l'équipe d'Angleterre. Moore a disputé sa 3e Coupe du Monde qui se déroule au Mexique en 1970. Lors du second match du tournoi, l'Angleterre rencontre le Brésil, futur vainqueur du tournoi, qui dispose de la vie générale d'une des meilleures équipes de l'histoire. Le match est marqué par les exploits du gardien Gordon Banks, mais aussi de Moore, auteur d'un fameux tacle sur Jairzinho. À la fin du match, remporté par le Brésil, les deux capitaines, Pelé et Moore, échangent leurs maillots. Pelé dira d'ailleurs de Moore qu'il était le plus grand défenseur contre lequel il n'ait jamais joué. Privés de Banks, malade, les Anglais s'inclinent en quart de finale face aux Allemands, 3-2, après avoir pourtant mené 2-0. Moore s'illustre par sa lecture du jeu, sa capacité à anticiper les déplacements de ses adversaires, la précision de ses tacles et de ses passes vers ses attaquants, des qualités qui compensent son manque de vitesse. Bobby Moore s'impose alors comme un défenseur propre, toujours bien placé, à l'opposé de l'archétype du défenseur anglais de l'époque, rugueux, brutal, et qui ne s'exprime que par ses qualités physiques. Bobby Moore réalise une carrière d'entraîneur très modeste. Il décède le 24 février 1993, à l'âge de 51 ans, des suites d'un cancer de l'intestin. Bobby Moore était associé en défense centrale avec Jackie Charlton. Jackie Charlton est né le 8 mai 1935 à Ashington. Surnommé Big Jack, Grand Jack, en raison de sa taille, 1m91, il est l'un des plus grands défenseurs centraux anglais. Il joue pendant toute sa carrière à Leeds United, de 1953 à 1973. Par la suite, il devient entraîneur de l'équipe de la République d'Irlande. Cette équipe se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe du Monde 1990 et perd contre l'Italie, pays organisateur, qui joue devant son public. Sous sa direction, l'Irlande se qualifie aussi pour la Coupe du Monde de 1994 aux États-Unis. Elle est éliminée en huitième de finale. Jackie Charlton s'est éteint en juillet 2020, à 85 ans. L'autre frère Charlton est le cadet, Bobby Charlton. Il est né le 11 octobre 1937. C'est le milieu offensif de l'équipe anglaise de 1966. Il aura été crédité de 2 passes décisives à destination du buteur Geoffrey Hurst. Le 6 février 1958, alors que Manchester United s'est qualifié aux dépens de l'Étoile Rouge de Belgrade pour les demi-finales de la Coupe d'Europe des clubs champions, l'avion de la British Airways, qui ramène l'équipe et quelques journalistes vers la Grande-Bretagne, s'écrase sur la piste de décollage de Munich. Le bilan est lourd. 21 personnes périssent dans l'accident, dont 7 joueurs de Manchester. Un 8e joueur décédera 2 semaines plus tard, le grand espoir anglais Duncan Edwards. C'est un autre joueur, Harry Gregg, qui sauva Bobby Charlton des flammes en le faisant sortir de l'avion. Avec Manchester United, club au sein duquel il a passé la plus grande partie de sa carrière, Bobby Charlton remporte la Coupe d'Europe des clubs champions en 1968, 10 ans après le drame. Contrairement à son frère, Bobby était un artiste. L'homme que le sélectionneur Al Ramsey n'aurait dû jamais sortir en quart de finale de la Coupe du Monde 1970 à Lyon, alors que l'Angleterre menait 2-0 face à l'Allemagne. Parce qu'au final, l'Angleterre avait perdu ensuite 3-2, victime à parts égales du gardien Gordon Banks, resté alité à l'hôtel, et de ce coaching malheureux. Bobby Charlton est entré dans la nuit depuis plusieurs mois, victime de la maladie d'Alzheimer. Le gardien de but de l'équipe anglaise de 1966 est Gordon Banks. Il est né le 30 décembre 1937 à Sheffield. Gordon Banks fait ses débuts comme gardien dans l'équipe d'une entreprise d'exploitation de charbon près de Sheffield. En 1955, il est recruté comme gardien de but après avoir été apprenti patrier. Il fait ses débuts professionnels en équipe première en 1958. Il entre définitivement dans la postérité footballistique lors d'une confrontation Angleterre-Brésil de la Coupe du Monde 1970, où il est l'auteur d'un arrêt décisif et spectaculaire sur une tête à bout portant de Pelé, à tel point que cet arrêt est couramment considéré comme l'arrêt du siècle. Banks a dit « Ils ne se souviendront pas de moi pour mon titre de champion du monde, mais pour cet arrêt. » Banks décède en 2019. C'était une légende anglaise.
C'était la chronique de Gilles Labourroir, à retrouver en podcast sur le site d'Esprit Occitanie.